Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez décidé que le rideau rouge devait se fermer sur l'éternel jeune homme toujours vert que vous demeurez après plus de 60 ans de chansons, des chansons résolument autant couleurs comme vous. Bonjour Pierre Perret.
Salut mon cher Jacques, salut à tous, je suis heureux de vous retrouver et c'est pas la première fois.
Non, c'est la quatrième, c'est le record des clés d'une vie en 831 émissions.
Mais j'en suis très fier.
Ben, moi aussi. Alors, il y a cet album Mes aides provisoires dont on va parler tout à l'heure et ces concerts et ces nouvelles chansons, mais quand même, selon le principe des clés d'une vie, je reviens un petit peu sur votre passé à travers des chansons qui sont dans cet album. Alors je précise que cet album a une particularité. D'habitude, après un concert, on fait un album live. Là, il précède vos concerts, Pierre Perret, cet album live.
Ben oui, parce que dans la grande période d'incertitude dans laquelle nous nous trouvons,
ah bon,
j'ai écrit déjà il y a un an à peu près une chanson qui s'appelle « Mes adieux provisoires » et que je pensais chanter tout naïvement, il y a presque un an aussi, à Pleyel. Alors, il y a un an, on m'a dit « Bon, ben, dans 3 mois ». Il y a 9 mois, on m'a dit « Bon, dans 3 mois ». Enfin, maintenant, je vous la fais courte. Maintenant, tout est Pleyel, entre autres, ainsi qu'une cinquantaine de concerts, ont été reportés au 30 et 31 décembre. Je ne sais pas si vous voyez, mais ouais. Bon. Mais on y sera quand même.
On y sera comme ça. Ben, ce sera Noël après terme, à l'inverse de Noël avant terme, qui est l'une de vos chansons.
Ah, voilà un connaisseur de mon répertoire.
Alors, donc, effectivement, les chansons de cet album, ce sont les chansons qui seront dans le concert. On va en évoquer quelques-unes à travers des dates clés. La première chanson, elle correspond au 9 juillet 34, votre naissance. Cette chanson, c'est celle de votre origine.
Je suis le Castelsarrasin.
Ah oui.
Il y a du tabac, il y a du raisin. C'est pas du Havane, il s'en
faut. Et vous êtes né, je crois, au deuxième étage d'une maison, juste en face d'une prison, Pierre Perret.
Oui, oui. Et en plus, rue de la Révolution.
C'est fou.
Tout un programme.
C'est peut-être pour ça que vous avez toujours été un homme libre, d'ailleurs. Face
et
à une prison.
C'est pas impossible.
Alors, c'était bien sûr déjà à l'origine le pays des foie gras, des truffes, du cassoulet, qui vous a marqué à vie, finalement.
Ben, j'en ai toujours gardé un très bon souvenir. Il m'arrive de flirter avec un petit foie gras de temps en temps, encore qu'il faut être parcimonieux à mon âge maintenant.
Oui, et il y a quelqu'un aussi qui est né à Castelsarrasin, on ne le sait pas assez, c'est Alain Ducasse.
Oui.
Et qui est lui aussi un grand restaurateur,
oui,
grand amateur.
Ah ben oui, c'est très bon.
Et il y a également un monsieur qui s'appelle Gilles Galasso, qui est le champion du monde des maîtres d'hôtel. Vous voyez, on n'est pas très loin.
Je ne savais pas.
Il est de Castelsarrasin. Alors, c'était au temps où les nutritionnistes ne vous déconseillaient pas certains plats pour une raison ou pour une autre. Et ces plats, bah, vous avez connus grâce à votre mère, finalement, Pierre Perret.
Oh, ben maman était une cuisinière qui aurait très certainement, si elle en avait fait son métier, elle aurait été de la famille des Hélène Darroze ou la mère Brasier, voilà, parmi les meilleures. Naturellement, elle savait très bien cuisiner. N'importe quoi qu'elle fasse, c'était infiniment goûteux.
Voilà. Et c'était goûteux pour les clients du Café du Pont, qui était le café familial près du canal. Et là, bah, des clients que vous avez observés, qui vous ont marqué, se régalaient tous les jours.
Oui, parce que ils mangeaient à la cantine de l'usine, les malheureux. C'est une grande usine où il y avait plus de 1000 ouvriers. Et évidemment, c'était infect, leur cantoche, là. Et chaque fois qu'ils rentraient dans le café, ils sentaient les effluves de la cuisine de maman. Et ils lui ont tellement supplié, « Claude, fais-nous juste un plat du jour, mais fais-nous quelque chose parce que ça sent tellement bon. » Et elle a cédé. Et puis, bon, ben après, elle a multiplié son boulot par 3, la pauvre, déjà qu'elle en faisait tant tous les jours. Mais elle l'a fait avec cœur et c'était délicieux.
Voilà. Oui, et à l'époque, vous vous occupiez, je crois, des carafes d'eau.
Oui, oui. J'allais à la pompe devant la porte et je pompais avec le balancier comme ça. Et j'allais chercher des carafes d'eau où il y avait des marques de pastis, d'apéritifs dessus. C'était du bonnet, bière, etc. C'était drôle, oui.
Et vous serviez ces carafes d'eau à des personnages pittoresques qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, parce qu'il y avait des allumeurs de réverbères, des fabricants d'asticots, des personnages étonnants qui venaient au café de familial.
Ah oui, et puis qui faisaient parfois des numéros pour épater un peu les clients qui étaient au comptoir. Et ça, j'avoue que j'ai vu maman partir ou insulter les clients parfois, parce qu'il y en avait un qui montrait comment il pêchait. Parce qu'on lui disait, vous pêchez avec des asticots? Ben oui, je pêche avec des asticots. Mais comment vous pêchez avec des asticots? Et alors, il avait souvent sa boîte d'asticots sur lui. Il prenait une poignée d'asticots, il les mettait dans sa bouche. Et il disait, voilà, il les sortait un par un pour les mettre à l'hameçon. Et maman, on lui disait, c'est dégueulasse! Et elle le virait aussitôt.
Et puis, ces gens-là avaient un vocabulaire qui est un peu à l'origine de vos chansons, de votre vocabulaire.
Complètement à l'origine. Parce que c'était, ils avaient un verbe très haut en couleur et ils arrivaient des quatre coins de France pour la bonne raison qu'il y avait une machine à l'usine, il y avait un atelier de frappe de monnaie parce qu'on frappait la très triste, célèbre pièce de Pétain avec la francisque de l'autre côté, les pièces en aluminium. Et il y avait des gens qui venaient apprendre la frappe de monnaie des quatre coins de France. C'est-à-dire qu'il y avait des Lyonnais, des Marseillais, des Bordelais, des Ch'timis, etc. Et ils parlaient tous entre eux au comptoir, bien sûr. Et moi, c'était un vocabulaire d'une luxuriance magnifique qui m'a vraiment marqué. Et dans l'amour et de la découverte d'un vocabulaire, des mots, tout s'est déclenché là. Et j'avais 6-7 ans, hein, pas plus. Mais ça m'a marqué à vie.
Oui, et d'ailleurs, Michel Audiard a fait exactement le même principe. Il écoutait les conversations dans les cafés.
Exactement.
Il y a aussi quelqu'un qui l'a fait, c'est Jean-Marie Gourouillot avec ses brèves de comptoir. Seulement, lui, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il écoutait toute la journée, il buvait en même temps, et le soir, il n'arrivait pas à relire les notes tellement il avait bu.
Alors ça, c'est autre chose, effectivement, mais il a beaucoup de talent, Gourouillot aussi.
Et tout cela, vous l'avez résumé dans une chanson au Café du Canal qui sera sur scène et qui est dans Mes adieux provisoires.
J'ai la jolie rosette au Café du Canal. Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici, on peut apporter ses baisers.
Voilà. Et des baisers du public, vous les avez eus à Castelsarrasin, où il a fallu des années pour qu'on vous engage pour faire un concert, curieusement.
Oui, c'est bon. C'est nul n'est prophète en son pays, tellement. Bon, aujourd'hui, tout s'est arrangé depuis longtemps, mais c'est vrai que Castelsarrasin n'a pas été. C'est pas parti avec les bras à grands ouverts, voilà pour moi. Mais c'est pas grave.
Et la chanson non plus, parce que Eddie Barclay vous a engagé, vous vendiez pas de disques, et puis un jour, ça a marché, mais ça a marché à la grande surprise de tout le monde, y compris d'Eddie Barclay, avec cette chanson.
Oh, Torvoyo, le patron s'appelle Bruno, sa femme est morte il y a 3 mois. D'un ulcère à l'estomac.
Alors que vous vendiez 5000 disques, vous en vendez 100 000 en une semaine. Ça a été un événement.
Exactement. Et le plus surpris, c'était Barclay, parce que j'étais parti de chez lui.
Oui.
J'étais au Disque Vogue en compagnie de mes copains avec qui je débutais, avec Françoise Hardy, avec Johnny, Dutron. Voilà. On se marrait bien et on était tous débutants.
Comment expliquer le succès de ce Torvoyo qui a été vraiment un phénomène de société, Pierre Perret?
Je crois qu'il y a une luxuriance dans le vocabulaire quand même, parce que les boyaux qui tricotent des napperons, ce n'est pas des images très, très répandues dans mes collègues auteurs.
Non, et j'ai découvert aujourd'hui un bar à Grenoble qui s'appelle le Torboyau.
Oui.
On sert des cocktails où il y a de la pomme, comme dirait Jean Lefebvre dans les Tontons Flingueurs, et des cocktails jusqu'à 2h du matin, sauf en ce moment, bien entendu.
Oui, il y en a eu beaucoup de bistrots qui ont emprunté ce nom-là parce que ça a laissé des petits, quoi, et ça a fait des petits. Il y en a eu à Paris, même à Torboyau aussi. Voilà.
Et il y a eu aussi Claude Terrail, le patron de la Tour d'Argent, qui au départ n'était pas réjoui de la comparaison.
Il paraît qu'il n'était pas très content de la comparaison, puisque la chute de la chanson allait vite le voir avant qu'il achète la Tour d'Argent. Ça lui avait plu que moyennement. Quoi,
oui,
voilà.
Et Claude Terrail était un monsieur qui recevait avec un œillet à la boutonnière tous ses clients, qui rêvait d'être Sacha Guitry et qui recevait ses clients comme Sacha Guitry dans ses pièces parlait.
Oui, oui, oui. C'était un monsieur très comme ça. Quoi.
Alors, il y a les premiers à avoir cru en vous, d'abord, c'est Boris Vian et Georges Brassens.
Oui, surtout Boris.
Boris a cru en vous alors que personne ne croyait en vous, Pierre Perret.
Ben, je ne sais pas s'il était le seul, mais enfin, lui m'a dit, toi petit, il faut que tu continues. Alors bon, ben, j'ai continué bêtement.
Voilà, et à l'époque, Boris Vian, ce n'était pas la star mythique qu'on connaît aujourd'hui, c'était quelqu'un dont on lisait à peine les livres et dont on écoutait à peine les chansons.
Mais de plutôt sagace tout de même.
Voilà. Et puis, il y a aussi Poupchène, la femme de Brassens, qui vous a poussé un jour sur scène, pratiquement.
Surtout elle, oui.
Je crois que c'était...
C'est elle qui m'a encouragé.
Oui, un jour, vous êtes dans un cabaret, et puis finalement, ben, elle vous oblige pratiquement à monter sur scène. C'était à la Colombe, je crois.
Oui, elle ne m'a pas obligé à monter sur scène, mais simplement, à la Colombe, je passais à cette époque-là avec la petite Françoise Marin, pour laquelle j'avais écrit quelques chansons. Mais moi, je ne chantais pas. C'est elle qui chantait mes chansons. Et alors, comme c'est Poupchène et Georges, d'ailleurs, qui nous avaient recommandé à Canetti, le patron des Trois Baudets, pour passer une audition, où elle avait été reçue en écoutant mes chansons, et où, justement, Boris Vian l'avait écoutée, il nous avait encouragés. J'ai revu plus tard Poupchène, qui m'a dit, mais... Vous devez gagner rien du tout, parce que le patron était quand même très radin à la Colombe, et il lui donne combien ? Alors, je ne me souviens pas, mais je lui dis une somme tout à fait ridicule, du genre 10 euros aujourd'hui, comme cachet, quoi, voilà. Alors, Poupchène catastrophé me dit, mais pourquoi tu chantes pas toi aussi ? Je dis, mais attends, Poupchène, mais moi, je suis pas chanteur, tu rigoles ? Mais elle me dit, tu dois te faire des chansons et tu dois les chanter, toi. J'ai dit, Poupchène, je te dis, je ne suis pas chanteur. Mais elle me dit, mais Georges non plus. Et il a chanté ses chansons que parce que personne ne voulait les chanter.
Brassens, bien sûr, grâce à Patachou.
Exactement. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et voilà, uniquement à cause de la femme de Georges, que... Je me suis mis à écrire des chansons pour moi en disant « Bon, ça mange pas de pain, de toute façon, si c'est pas bon, fous ça à la poubelle, et puis voilà.
Ah » ben voilà.
Et puis après, tout a mal tourné, voilà.
Oui, quoi. Exactement. Et surtout, le 29 août 1966, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Pierre Perret.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Perret. Il y a cet album, Mes aînés provisoires, et puis des dates. 29 août 1966. Alors, c'est une émission de télévision qui s'appelle Les 1200 coups. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Non.
Présentée par Michel Drucker à Font-Romeu.
Oui.
Oui. Et pour la première fois, vous chantez cette chanson.
Les jolies colonies de vacances. Merci, maman, merci, papa.
Alors, surtout à Font-Romeu pour une chanson qui va aller au sommet, c'est logique. Mais c'était la première fois que vous passiez à la télévision avec cette chanson et vous receviez déjà des lettres d'insultes.
Ça, j'en ai reçu toute ma vie, de toute
façon. Oui, mais pour cette chanson, vous disiez à Drucker que chaque fois que vous recevez des lettres, ça fait monter les ventes.
C'est pas faux non plus, parce qu'il y a des gens qui trouvent idiot qu'on reçoive des lettres d'insultes et qui disent, bah, puisque c'est ça, moi je vais acheter son disque.
Voilà, exactement. Et cette chanson, ben, finalement, elle est née grâce à votre femme. Pierre Perret, qui vous a vu débuter la chanson et a exigé que vous la terminiez.
Un jour, oui, elle était rentrée de son boulot, puisqu'elle bossait chez Barclay à l'époque. Et moi, j'essayais de bosser dans les HLM, dans un petit F3 qu'on avait là. Et j'avais beaucoup de mal à bosser. Et le soir, elle est arrivée, elle m'a dit, mais t'as réussi à écrire un peu ? Oh, j'ai dit oui, mais bon... C'est un truc pour... Je vais chanter dans les boîtes parce que ça, je le mettrai jamais sur un disque. Je dis, c'est un truc tellement déconnant. Elle me dit, mais c'est quoi ? Mais je dis, bon, assieds-toi. Et je lui ai chanté le premier couplet et le premier refrain. Et je n'avais écrit que ça. Elle la voilà partie, elle se marrait, mais elle rigolait. Elle me dit, mais tu peux la finir, celle-là ? Ben, j'ai dit, oui, ben oui, oh là, parce qu'en plus, je connais tellement le sujet, les colonies de vacances, j'y étais allé tellement souvent, et puis, bon, ça m'amusait beaucoup comme univers à raconter. Il y avait tellement de conneries à raconter, d'ailleurs, j'ai dû faire le tri, tellement la chanson était riche. Et elle me dit, alors, finis-la. J'ai dit, bon, d'accord, ben je m'y remettrai demain. Le lendemain, elle revient de chez Barclay, du bureau où elle bossait. Elle me dit, alors, t'as avancé ? Je lui dis, assieds-toi. Elle s'est assise. J'ai commencé du premier mot jusqu'au dernier, sans changer une virgule. C'est la seule chanson de ma vie que j'ai écrite en 2 jours. Et c'est les colonies de vacances que vous connaissez, bien sûr. Et bon, même aujourd'hui, dans une salle, si je fais les... Toute la salle fait « Je dis que je connais ça par cœur, évidemment. »
C'est ce que vous n'imaginez pas au début.
Pas du tout. Ah ben non, jamais. Mais non, jamais. Ça, si Rebecca n'avait pas insisté là-dessus, j'aurais peut-être jamais fini.
Mais comment expliquer ce succès et ce scandale qu'a déclenché les Jolies Colonies de Vacances à l'époque, puisque vous avez été déconseillé à la radio et interdit de télévision pendant 6 mois?
Ah oui, interdit à la télé pour pipi dans le lavabo.
Oui,
ça paraît. Et à l'époque, il y a même Yvonne de Gaulle qui a téléphoné à Roland Dordain, qui était alors le patron de
France Inter.
De France Inter, et qui lui a dit, monsieur, nous vous serions reconnaissants, nous, c'est-à-dire qu'elle a mis Pépère dans le coup. Madame de Gaulle et monsieur, nous vous serions reconnaissants de stopper la diffusion de cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. J'étais d'un coup la honte de la France. Écoute, ma Légion d'honneur, elle était là. Hein. C'est fabuleux.
Alors, en plus, c'était lié à des souvenirs d'enfance, puisque vous avez, entre 8 et 12 ans, vous avez passé vos vacances à Montjoie.
Oui.
À colonie de vacances.
Oui.
Et c'est exactement l'histoire de la chanson.
Exactement. J'ai même tourné un film là-bas avec un monsieur qui s'appelle Jacques Pessis et qui est en face de moi.
C'est exact. Alors, je me suis un peu renseigné. La première colonie de vacances en France, c'est en 1882, un pasteur qui s'appelait Théodore Loriot qui a organisé pour 72 enfants parisiens des déplacements dans des familles de paysans dans un village appelé Montjavoux, dans l'Oise. Et c'est le lieu de la première colonie collective.
Ah, c'est intéressant. Je savais pas ça. Il a eu une très bonne idée, ce monsieur.
Je crois, oui. Alors, finalement, aujourd'hui, ce sont les arrière-petits-enfants de vos premiers auditeurs qui chantent cette chanson. C'est incroyable.
Oui, parce que les gosses aussi, ils sont friands de ça. Et dans les chorales de nombreuses écoles, d'ailleurs, dont certaines portent mon nom, et ils apprennent ces chansons-là à côté de la cage aux oiseaux ou de la vaisselle cassée ou de mon petit loup, etc.
Et aussi de cette chanson que tous les enfants connaissent, qui est un classique.
Tonton Christophe est revenu, des vaisseaux, des lingots, il en a le queue cousue.
Alors cette chanson est liée, paraît-il, à un agent immobilier qui n'est pas Stéphane Plaza, mais qui vous louait une maison en Espagne, je crois, à Pierre Perret.
Oui, c'était un vieux brigand. Il n'était pas agent immobilier, tu parles. C'était un cantonnier qui il connaissait quelques proprios sur les plages espagnoles où, à l'époque, il n'y avait pas un rat. Il n'y avait personne. Et alors, il essayait de fourguer des villas comme ça, à louer aux touristes parce que, bon... Et moi, j'ai été l'un d'eux et il essayait, bien sûr, à chaque fois d'arnaquer un peu. Déjà, il prenait une grosse commission, mais... Il essayait de vendre très bien. Il le vendait très bien, d'ailleurs. Mais il était sympa comme tout. Et il a fait partie de Tonton Cristobal, puisqu'il s'appelait José Corral. J'ai gardé son nom dans la chanson. Et quand la chanson a été célèbre, j'allais toujours en Andalousie. Et un jour, il est venu me trouver, il m'a dit « Mais il paraît que vous parlez de moi dans une chanson. » J'ai dit « Oui, toute la France te connaît, mon pote. » C'était drôle.
Et la France, vous l'avez bien connue, puisque vous avez commencé à faire des tournées, et notamment des tournées avec Charles Aznavour. Alors, c'était des tournées où on chantait le soir, mais on déjeunait bien à midi, Pierre Perret.
Ah oui, oh là là, avec Charles. Il était gourmand et gourmet. Et finalement, pour son petit corps, là, je trouve qu'il s'en mettait bien dans le fusil. Hein. Il ne fallait pas lui en promettre, il se tenait bien à table.
Oui, il m'a expliqué un jour qu'à partir d'un certain âge, pour être en bonne santé, il faut boire au moins un verre de vin à chaque repas.
Oui, au moins un verre, oui. Ouais.
Et donc, vous déjeuniez, il y avait une sieste, il y avait une répétition. Et puis un jour, à la fin d'une répétition, vous lui faites entendre une chanson que vous venez d'écrire.
Elle s'appelait Blanche et c'était une flamme.
Oui, exact.
Mais oserais-je un jour chanter ce refrain-là? En entrant dans le lit, je l'ai sentie nerveuse. Sur le drap de couleur, sa chair devint rose.
Chanson très très belle. D'ailleurs, on a dit de vous que Brassens aurait pu écrire cette chanson. Et c'est une chanson qui est la première, qui est très différente de votre répertoire. Et Aznavour y a cru, je crois, Pierre Perret.
À lui, oui, il y croyait. Mais on a failli se friter parce que, contrairement à ce que tu disais, on ne faisait pas la sieste. On faisait certes un bon déjeuner,
oui,
mais après on rentrait dans nos chambres respectives, chacun écrivait pendant oui, 2 heures. Tous les jours, en tournée, on écrivait pendant 2 heures.
Lui a écrit, je crois, « Emmenez-moi » à cette époque-là.
Et lui travaillait sur sa chanson « Emmenez-moi oui, » qui est une très belle chanson. Et un soir, je me souviens, on était aux arènes de Béziers, je crois, et il me dit « Alors, tu as bossé ?» J'ai dit « Oui ». Ah, il me dit « Tu me chantes ?» Mais j'ai dit « Oui, si tu me chantes la tienne. » Après, il dit « Je te la chante. Chante-moi ta chanson. » Et je lui chante Blanche. Juste à la guitare, comme ça. Et le salopard... Paix à ton âme, mon pauvre vieux. Mais il me dit « C'est toi qui as écrit ça ?» Alors là, j'étais vexé comme un pou, parce que j'ai trouvé quand même... Enfin, ça m'a déçu qu'il me dise « C'est toi qui as écrit ça, tu vois ?» Je dis « Ben oui. » Mais je lui dis « T'en fais pas, je le chanterai jamais sur scène, parce que, tu vois pas, avec la tête que j'ai, je pourrais jamais chanter une chanson comme ça. » Mais il m'a dit « Ben, détrompe-toi, mon petit vieux. » Il me dit « Tu vas la chanter, et tu vas la faire connaître, et elle marchera très fort, parce que c'est une chanson très belle. » Voilà, il s'est rattrapé comme ça.
Et il avait raison.
Et il avait raison, mais tu vois, je vais te dire un détail là-dessus. Je n'en ai jamais parlé. Quelques temps après, j'ai fait l'Olympia en tête d'affiche. Et c'est la première fois que je bourrais l'Olympia de ma vie et que pour moi, c'était un grand moment et tout. Mais je me suis demandé jusqu'au bout si j'allais chanter Blanche ou pas. Dans le récital que je faisais en deuxième partie. Finalement, je l'aimais en me fiant à ce que m'avait dit Charles. Il m'avait dit « Mais non, tu verras. » Et au premier rang, en plein milieu de Blanche, il y avait deux filles au premier rang, deux petites dindes qui devaient avoir 10, 17 ou 18 ans, qui ont gloussé. Quand j'ai dit, et ses cuisses fuyaient comme deux truites vives, elles ont fait comme ça. Un rire complètement idiot, ce qui m'a glacé. Et j'ai vraiment failli arrêter de la chanter et surtout de la remettre le lendemain. Et je ne sais plus, j'avais un copain très proche là, à qui j'ai raconté ça parce qu'il a vu mon émotion en sortant. Il m'a dit, non, non, tu la remets demain. Elle dit, c'est pas à cause de deux petites connes, là, tu... Et le lendemain, je l'ai rechanté. Et effectivement, depuis, sur scène, ben maintenant, de toute façon, tout le monde me la demande depuis fort longtemps, mais ça n'a jamais suscité ce genre de réaction que je craignais tant et pour laquelle Charles m'avait dit, mais non, ça n'arrivera jamais. Malheureusement, c'est arrivé. Bon, mais c'était pas grave.
C'était pas grave, et il y a eu d'autres moments heureux. Il y en a qu'on va évoquer dans quelques instants avec une date, le 26 septembre 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Perret.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Perret. Nous allons parler tout à l'heure de vos adieux provisoires, de l'album et de la tournée, qui j'espère se déroulera très vite. Et on revient à une date, 26 septembre 2003. Alors, c'est une date importante car vous recevez ce jour-là le prix de l'Académie française, la médaille de vermeil de l'Académie française, la grande médaille de la chanson française.
Mais comment tu es au courant de ça, toi?
Ah, là, je me suis renseigné.
Ah, il y a peu de gens qui savent ça, puis moi, j'en parle jamais. Mais c'est, oui, sûrement, oui.
Oui, et c'est une cérémonie plaisir, sous la coupole?
C'était, non, c'est pas un endroit, c'est pas un lieu pour moi. Je déparerais dans un endroit pareil, certainement. Mais... ça m'a touché parce que ça a été pour l'ensemble de mon œuvre. Et je suis content qu'ils aient pris en compte tout mon univers littéraire, entre guillemets, parce que ça m'a beaucoup touché, voilà.
Mais il y avait quand même une cérémonie pour la remise de cette
oui,
médaille.
Oui, oui, oui. Oui, et puis il y a eu... Alors, j'ai pas pu être à la cérémonie parce que je chantais le soir de la cérémonie. C'était en fin d'après-midi vers 6 heures le soir, je crois. Et moi, j'étais à 8 heures à 500 km de Paris dans ma loge et j'allais rentrer en scène. Donc, j'ai délégué à un copain, je me souviens plus qui est allé. Et il paraît que c'était... que ce qui a été dit était magnifique. Et je crois, je ne me souviens pas qui avait fait un éloge comme pour
un immortel,
pour,
oui.
Comme, quasiment comme pour un futur académicien. Quoi,
oui, voilà. Vous auriez aimé être académicien, vous l'auriez mérité peut-être, Pierre Perret.
Non, mais je pense pas que j'aurais été... un bon académicien, voilà. C'est loin de la liberté d'esprit qui est la mienne. Et je pense qu'un académicien doit se tenir bien, ce que je n'ai jamais vraiment su faire.
Oui, alors Brassens avait la même réaction de vous. Quand on lui a proposé d'entrer à l'Académie française, il a dit « Ma dignité l'interdit, vous ne me voyez pas avec un bicorne et je déteste tous les uniformes sauf celui du facteur ».
C'est à peu près, voilà, je veux pas, j'ai toujours essayé de ne pas copier sur lui, mais en l'occurrence, je suis d'accord avec son raisonnement.
Alors, ce qui est important aussi avec ce prix, c'est que c'est un hommage à la langue française que vous avez toujours défendue depuis l'école. Vous avez même été membre du Conseil supérieur de la langue française au ministère de la Culture.
Oui.
C'est important pour vous, ça, Pierre Perret.
Ben oui, parce que, alors, dans les couronnements... qui peuvent être un alter ego avec cette médaille de l'Académie française. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, justement la distinction des arts et lettres qui m'a été remis. Et ça, c'était surtout beaucoup pour le parler des métiers, parce que c'est un travail de fourmi. Ce dictionnaire m'a demandé 14 ans de travail. Et j'ai été beaucoup, beaucoup aidé par la famille Quémada, Bernard Quémada et Gabrielle, son épouse, qui ont veillé à ce que je ne dise pas de bêtises dedans, même la moindre erreur eût été... et comme il y avait presque 1500 pages dans ce dictionnaire... j'ai été vraiment surveillé par des gens de grande qualité.
Voilà. Oui, alors justement, la langue française, pour vous, c'est un devoir de la défendre aujourd'hui plus que jamais, Pierre Perret.
Ah oui, ça c'est sûr. Que... Oui. Quand vous écoutez quand même la plupart des raps que vous entendez aujourd'hui, vous vous dites si jamais ils pouvaient améliorer un peu leur français, ça serait pas trop mal, quoi. Voilà. Moi, j'ai rien contre le rock, le rap, je m'en fous. J'en ai jamais fait, mais. Je suis très tolérant pour tout et tout ce qui est intéressant et talentueux m'intéresse. Mais parfois, je trouve que la carence de grammaire de tout ce qu'on peut entendre en chanson, en rap, en rock, en tout ce que vous voudrez aujourd'hui, il y a quelques gens intéressants. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gâchis. Voilà.
Oui, et puis il y a la réforme de l'orthographe dont on parle beaucoup. Et ça, l'orthographe, Dieu sait si en voyant les textos, on est un peu inquiet.
Le courrier que je reçois, je suis atterré à chaque fois parce que les trois premières lignes, je sais à quoi m'en tenir, quoi, parce qu'il y a... Il y a 6 fautes par mot, quasiment, quoi.
Mais c'est inquiétant même pour l'avenir, non? Qu'est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Parce que vous êtes occupé, vous, de la réforme de l'orthographe en un temps.
Oui, on a bossé là-dessus pendant presque 7 ou 8 ans, avec des gens de grande qualité. Ça a été interrompu, ça n'a pas perduré sous qu'est-ce qui est venu à ce moment-là. Je crois que c'était Sarkozy,
oui.
Sous le sous le mandat de Sarkozy, ça n'a pas perduré.
Voilà. Et il faudrait peut-être reprendre cette réforme d'urgence et retravailler. Dans
à mon avis, oui, parce qu'en plus, il n'y avait vraiment que des pointures de la langue française.
Alors, il y a aussi votre façon d'écrire, c'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, bon, les Jolies Collines de Vacances ont été écrites en deux jours, il y a des chansons qui ont demandé des mois de travail.
C'est la seule de toute ma vie. Et... La seule chanson de toute ma vie que j'ai écrite en deux jours.
Oui.
La plupart du temps, c'est trois mois, ou même une fois, il y en a une que j'ai mis 30 ans à écrire, alors voilà.
Oui, et en même temps, le travail, c'est dans la solitude totale d'une maison très discrète que vous avez achetée, je crois, au dessinateur ciné.
Oui.
Et, où personne n'allait, à part vous.
Toujours, mais... Toujours. J'écris toujours là et je ne vois personne. Et j'écris... J'écris entre 6 et 10 heures par jour.
Voilà. Et Aznavour m'a dit un jour, une chanson est terminée quand vous savez que vous n'avez plus un mot à ajouter.
Alors là, moi, je ne serai pas aussi formel, mais je vais te dire une formule que m'a dit Georges un jour, au début, quand j'ai commencé à faire des chansons, Brassens, et il m'a dit, tu vois, quand tu as fini l'écriture de ta chanson, c'est là que le boulot commence. Et j'ai fait ça toute ma vie. Parce qu'une chanson... tu peux faire une chanson, tu le sais très bien, toi, mieux que n'importe qui encore. Si tu veux faire une chanson, dans la journée, tu peux faire une chanson. Mais il y a chanson et chanson. Une chanson qui traverse toute une vie, eh ben... Il y a du boulot derrière, crois-moi, même si ça ne se voit pas, et surtout si ça ne se voit pas.
Ouais. Et il y a une chanson que je crois que vous avez réécrite près de 500 fois, c'est celle-ci.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le mont pelé.
Cette chanson, vous étiez certain au départ qu'elle ne passerait jamais à la radio, Pierre Perret.
Absolument, alors là, elle est la dernière sur l'album. En général, celle qu'on considérait toujours un peu comme la plus faible, le petit canard, on le mettait en 12e titre sur la face B. Et elle est, à l'origine, sur le 12e titre de la face B, le Zizi. Et jamais j'ai pensé qu'elle passerait une seule fois à la radio. Alors que, bon ben, deux jours après qu'elle est passée pour la première fois, la France entière l'a chantée, et puis ça n'a toujours pas arrêté. Quoi.
Oui, vous avez battu au hit parade à l'époque Serge Lama, Michel Sardou, et je crois que vous avez reçu 16 disques d'or pour cette chanson.
Dans l'année.
Oui.
Dans l'année.
Comment l'expliquer ?
Ah ben il faut poser la question aux gens qui l'ont chantée et qui ont fait la gloire de cette chanson. Et là, tu aurais du boulot parce qu'il y en a quelques millions. Hein.
Oui, et puis à Tahiti, il y a une version un peu plus osée, je crois encore, de cette chanson.
Ah, il y a eu plusieurs tentatives là-dessus dont j'ai préféré ne pas avoir la traduction intégrale parce que parfois c'était très... La version allemande... Par exemple, ça s'appelait « Der Postillon d'amour ». Alors, écoute, on dirait une démarche qu'on entendait pendant l'occupation, tu sais. « Aïli, aïlo », tu entends, et le zizi, ça devient ça à peu près. Oh. Toutes les versions étrangères que j'ai pu avoir, oui, j'ai eu une version créole du zizi, une version d'écolo aussi, d'ailleurs, c'est marrant.
Oui, alors cette chanson, les enfants la connaissent, comme ils connaissent une autre de vos chansons.
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau.
Et ça, le nombre d'enfants qui ont ouvert la cage aux oiseaux au détriment des parents, c'est un cauchemar.
Et je me suis fait engueuler plus de 4 fois. Espèce d'abruti, je n'avais pas honte de donner des conseils pareils. Ben oui, c'est vrai que j'ai été un peu abruti là-dessus, quoi.
Oui, en même temps.
J'ai jamais douté une seconde que les lardons allaient me prendre à la lettre ce que je leur disais.
Oui, mais chaque fois que vous inaugurez une école, et vous en avez inauguré je ne sais plus combien, quand on
a...
Pas loin de 40.
Bientôt.
Il y a une cage aux oiseaux qu'on ouvre à chaque fois.
Oui, exactement. Et souvent, ils n'ont pas autre chose à mettre que des pigeons. C'est marrant, il faut leur foutre un coup de pied dans... pour les faire décoller, parce que les pauvres pigeons, ils n'ont pas l'habitude d'être libres.
Voilà. Et dans ces inaugurations, il y a aussi un cours magistral que vous faites, et vous parlez entre autres de cette chanson.
Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs.
Et là encore une chanson qui vous a valu un prix de la LICRA,
oui,
et une chanson en avance sur son temps, Pierre Perret.
Oui, plein de répercussions, énormément, mais surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a peu d'écoles qui n'enseignent pas Lily à leurs élèves, voilà.
Et cette chanson, elle est née comment ?
Eh bien, elle est née, l'idée m'est venue en sortant un jour d'un concert que je suis allé voir, enfin un concert, c'est beaucoup dire. Il y a Angela Davis qui sortait de prison un jour. On arrive à New York, on apprend que Angela Davis venait de sortir de prison, qu'elle allait donner un meeting le lendemain au Madison Square Garden. Et avec Rebecca, Juliette Boirivaux et son mari, on prend 4 places. Il y avait 50 000 blacks dans la salle. On était les seuls 4 blancs. C'était une émotion incroyable parce que elle a été amenée dans une cage anti-balles, Angela. Ils l'ont transportée dans une cage anti-balles avec des murs comme ça transparents, et elle a fait sa conférence à l'intérieur de la cabine. Et c'était d'une émotion, mais pas racontable. C'était incroyable. Au bout d'une heure, on est parti. J'étais complètement bouleversé. Et la chanson, j'ai commencé de l'écrire à la foulée, dans la foulée de tout ça. Et ça m'a pris 3 ans.
Et on voit le résultat aujourd'hui, puisque vous étiez en avance sur votre temps et qu'aujourd'hui, elle est toujours d'actualité.
Malheureusement.
Malheureusement. Et puis, on va continuer à parler de ces adieux provisoires à travers une date, le 26 février 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Perret.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Perret, 26 février 2021, sorti d'un double CD, mes adieux provisoires. Alors ce CD, je l'ai expliqué, ce double CD, c'est finalement le concert que vous allez donner le plus vite possible.
Ben, dès que je pourrai, ça va se passer à Pleyel. Aux dernières nouvelles, ce serait le 30 et le 31 décembre oui. prochain. Oui. Comme ça fait 4 fois que c'est remis, j'espère que ce coup-là, ça sera la bonne. Et cette chanson que tu évoques là, Mes adieux provisoires, c'est la chanson que je chanterai en entrant sur scène, tout seul, à la guitare, comme je faisais il y a plus de 50 ans, à la Colombe, quand je chantais tout seul à la guitare, voilà. Je repartirai à zéro de là à Pleyel.
Voilà, alors il se trouve que dans cet album, ce double album, il y a donc le récital au complet avec 32 chansons que vous ferez sur scène, et il y a 3 inédits, et le premier inédit, on le connaît bien grâce à Internet, ça s'appelle Les Confinis. On va écouter le début.
Comment t'aider ces pauvres gens qui agonissent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de macabées, les cherchaient pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé, ils nous sont en confinés.
Cette chanson.
Puis déconfiné, puis reconfiné, qu'on redoutait d'être infiné, déconfiné.
Voilà, et cette chanson, elle est née bien sûr pendant le confinement. Comment vous l'avez imaginée, dans quelles circonstances, Pierre Perret ?
Écoute, alors je suis désolé, il n'y avait qu'à ouvrir n'importe quel poste de radio, n'importe quelle télé, pour entendre toutes les conneries qu'ils ont débitées. Et le contraire, le lendemain, enfin ça, vraiment, la communication qu'on a eu au cours de cette année funeste pour certains malheureux qui ont laissé les plumes. Voilà. C'est l'apanage même du grand désordre qui est souligné par dans la tradition chansonnière, on a toujours fait ça. Et moi, ça m'a toujours démangé de dire les choses, la vérité. Et ça, je crois que c'était quand même la vérité.
Donc, vous êtes installé à votre bureau. La chanson n'a pas été écrite en 3 mois. Elle est née presque naturellement.
Oui, parce qu'à ce moment-là, j'avais que ça à faire. Tous mes concerts étaient tombés les uns après les autres. Tout était annulé de partout. Et j'ai passé chez moi, confiné, des journées entières à la table pour écrire cette chanson. Et ma foi, elle a été bouclée en quelques 2-3 semaines, je ne sais plus, mais j'ai écrit tous les jours. Et c'est parti tout de suite, mais alors à une vitesse grand V, parce que sur les réseaux, ça a fait un malheur tout de suite.
C'est-à-dire que la chanson a immédiatement été mise sur Internet, oui. A été relayée, il y a eu plusieurs millions de vues, je crois.
Pas loin de 4 millions maintenant, oui.
Et cette chanson, vous l'avez enregistrée à votre bureau,
oui,
les images qu'on voit, c'est votre bureau.
Dans le salon, chez moi. J'ai fait ça, c'est des petits ogres de Barbac, oui. Si talentueux, qui ont chacun de leur côté, j'ai chanté la mélodie au téléphone. Alors Fred a dit, je m'occupe de l'accordéon. L'autre qui habite à Montpellier a dit, moi je m'occupe du violon. Leurs deux sœurs qui jouent du clavier, du violoncelle, etc. Ils ont fait l'orchestration tout de suite dessus à chaud comme ça. J'ai enregistré la chanson et c'est parti 3 jours après sur les réseaux et ils ont fait un arrangement magnifique. C'était d'une telle évidence, c'était formidable.
Oui, mais le lancer sur les réseaux, c'était pour vous une grande première, Pierre Perret.
Oui, j'avais jamais fait ça, ça m'a amusé. Parce que, c'est Rebecca qui a dit, ça maintenant, il faut le faire partir, il faut l'envoyer sur les réseaux. Je dis, mais qui tu crois que ça va intéresser ? Si, tu vas voir. Et dès que c'est parti, en 2 jours, il y avait déjà 50, 100 000 vues. C'est parti.
Et dans cette chanson, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Exemple, suite de cette chanson.
Soir aux infos, il y a le ton du lot de sadiques qui compte les morts et puis il y a le défilé. Des professeurs, des stars, des scientifiques. Et puis le rouquin, la merloque, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être infinés, déconfinés.
Voilà, et vous avez dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas finalement.
Eh bien oui, parce que je ne l'ai chanté qu'une fois avant le total confinement, dans un théâtre de verdure au-dessus de Nice, et elle était sur les réseaux depuis 15 jours. Et quand j'ai chanté Les Confinés, dans la salle, tout le monde le chantait, il le connaissait déjà par cœur. Il n'y avait que 15 jours que c'était dans les réseaux, mais tout le monde la connaissait par cœur. Et alors, il y a quand même un truc qui m'a fait poiler, parce que ça les a fait poiler à eux d'abord. Quand je suis arrivé, la porte-parole, elle s'appelle Cybette. Il y en a qui trouvent qu'elle portait bien son nom. Les gens sont écroulés de rire. Il paraît que ça ne lui a pas beaucoup plu.
Ah bon, ça vous m'étonnez.
Et les autorités ont réagi d'ailleurs, ou ils ont trop de choses à faire avec les plateaux télé ?
Qui donc ?
Les autorités, le gouvernement.
Non, pas personne. Du tout. Personne n'a moufté. Parce qu'ils se doutent que ça pourrait être encore pire ailleurs s'ils mouftent.
Et d'ailleurs, vous dénoncez dans le dernier couplet les promesses à la gomme et les petits marquis qui nous gouvernent.
Bah oui.
Il faut oser quand même.
Eh bien, c'est vrai.
Oui.
Non, mais c'est faux.
Non, c'est vrai.
Bon, mais alors.
Voilà. D'ailleurs, il y en a même certains, on dit qu'ils pourraient être accompagnés, comme dans Lucky Luke, à la santé de la ville avec du goudron et des plumes.
Ils ne l'auraient pas volé, certains, oui.
Donc ce confinement, vous l'avez vu comment vous êtes resté chez vous à Nangis. D'ailleurs, vous êtes souvent chez vous dans votre maison, bien avant le confinement.
Oui, mais j'ai beaucoup travaillé dans ma maison que tu citais tout à l'heure, ma maison secrète. Oui. J'ai beaucoup travaillé là. J'ai beaucoup, c'est mon lieu de travail quelque part. J'y suis allé et j'ai écrit. Et il y a quelques mois, j'ai mis une dernière chanson de ponctuation que j'espère être le point d'orgue de toute cette situation nauséabonde que nous connaissons. C'est une chanson qui s'appelle « Bientôt », mais une chanson de grand espoir.
Eh ben, on va en écouter un extrait.
Oui, on s'en fera des bisous. Bientôt, bientôt, bientôt. De voraces baisers de loup jusqu'aux bisous très doux. Des bisous sur les paupières et des patins en fer. Mais ils peuvent nous faire payer un impôt s'ils voient qu'on s'embrasse trop.
Voilà, effectivement, c'est encore une chanson d'espoir et on en a besoin. Et comment elle est venue cette chanson? C'est l'espoir de sortir du confinement.
Ah mais oui, là, il y en a marre, tout le monde a envie de sortir du trou et en même temps de rire un peu et de se moquer un peu d'eux et de leur façon de nous avoir infantilisés comme ils l'ont fait. Et j'y fais souvent allusion d'un couplet à l'autre. Ben, ça, vous l'écouterez.
Oui, ben non, moi, même écouter un second couplet.
Rouvrir les petits magasins, tous ceux qui servent à rien, ceux qui se rendent coupables d'être non indispensables.
Ouais, il faut le faire, tu vois.
La musique, les fleurs, les livres, toutes ces choses futiles. Toutes celles dont ils auraient dû se nourrir au lieu de nous rabaisser. Oui, les grands voyages approchent.
Oui, ben, voyez, ce genre de choses, il faut oser le dire, et vous l'avez dit, mais et écrit très rapidement, encore une fois, Pierre Perret.
Oui, ça m'a pris 2 bons mois, quoi. Mais j'ai pas lâché la chanson. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce qui est assez rare chez moi, de remettre... Parce que quand je travaille sur 3 ou 4 chansons à la fois. J'écris 3 ou 4 chansons à la fois. Voilà, quand j'en ai marre sur une, je bloque, je passe à l'autre. Celle-là, je l'ai pas lâchée, j'ai pas lâché le morceau.
Et puis il y a cet album Mes Adieux Provisoires et c'est Pléiel le 30 et 31 décembre, on en reparlera, et cette tournée. Et puis surtout, ne nous lâchez pas, continuez Pierre Perret.
Tiens, je vais me gêner.
Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
Bientôt, bientôt, bientôt.